Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans cette semaine footballistique de Radio Foot International sur RFI et en cette fin d'après-midi où nous avons plein de choses à vous raconter, notamment du côté de l'Angleterre avec ses Reds. Reds qui walk alone, invaincus et détachés en tête du championnat d'Angleterre. Mais 8 points d'avance, est-ce suffisant pour se défaire de Manchester City et des autres poursuivants pour remporter la Première Ligue? Question que l'on se posera. Ces Reds devant des Citizens malades des absences et de leur défense, des Gunners qui débarquent sur le podium et des Spurs aux abois après avoir encaissé 10 buts en une semaine et perdu leur gardien et capitaine. Une victoire des Verts dans le derby, les opposants, eh bien évidemment aux Lyonnais sur le fil et dans un chaudron stéphanois soudain en fusion. Claude Puel a ravi les supporters et secoué une équipe en perdition alors que Silvinho a dirigé une équipe sans ambition qui ne perdait pas ce derby régional depuis 2 ans et demi. Que peut-il donc se passer à l'OL durant la trêve internationale ? Alors que le PSG a renoué avec la victoire devant son public du Parc des Princes et ses 4 buts ont été inscrits par 4 joueurs différents, peut-être le début d'une nouvelle ère, d'une ère de stabilité pour les Parisiens. En tout cas, nous en parlerons notamment avec Eric Rabé, Sandra Tana. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être dans Radio Foot aujourd'hui. Nous parlerons évidemment de foot anglais avec Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bruno, l'auteur du podcast 100% foot anglais que vous avez l'habitude d'écouter et que nous remettrons sur la page Facebook de notre émission. Et puis Naïm Moniol d'Eurosport est là.
Salut. Bonjour Annie, Naïm. Salut à tous.
Enfin Olivier Pron s'est invité dans l'émission.
Bonjour Olivier Pron. Je passais par là, on m'a voilà. Dit tiens viens.
Il s'est dit pourquoi
c'est
pas.
C'est sympa.
Oui, c'est toujours sympa, Radio Foot. Radio Foot, c'est parti. Jimenez looks for Traoré, who will run and run and has a chance to seal it, which he takes. C'est une déflagration, un coup de tonnerre en Première Ligue. Wolverhampton s'impose à Manchester City.
And it was a foul, it's a penalty.
This is one big kick for James Milner. He's done it. He's won it. Liverpool seem to have all the answers at the moment. And it looks like their winning streak will continue. Could this be their year at last? Could this be their year?
On leur promet de ne jamais marcher tout seul, n'est-ce pas, Bruno? C'est bien refrain.
Ils courent tout seuls, là.
L'hymne, voilà. You'll never walk alone. Donc, ces jours-ci, les Reds courent tout seuls. Et tous leurs supporters sont sûrement très heureux de devoir courir tout seuls en tête de la Première Ligue à l'issue de la 8e journée. Liverpool est donc seul grâce à sa victoire 2-1 hier, mais surtout parce qu'il aligne les victoires. Invaincu, c'était la 8e en 8 journées, mais la 17e aussi consécutive en championnat. Pour cette équipe de Jürgen Klopp qui a donc pris de l'avance et surtout qui profite des faux pas des Citizens, on va y venir. Mais 8 points, Bruno, et je me tourne vers vous, est-ce que c'est suffisant puisque, on se souvient tous, je pense ici, que l'année dernière, il y a eu un moment où ils avaient 7 points d'avance et qu'ils sont arrivés avec un point de retard.
C'est ça. Et en plus, c'était au mois de janvier, c'était après 20 ou 21 journées. Donc ça veut dire que là, ils ont encore plus de temps pour faire leur retard. Mais après, on ne sait jamais, Liverpool est prévenu, City aussi. Et l'histoire a peut-être pas
est-ce
se répéter deux fois.
Est-ce que chat est chaudé craint l'eau froide et est-ce que ces Reds peuvent se dire là c'est pas possible, il faut pas que ça nous échappe.
Bah ils se le disent depuis quelques années déjà hein, depuis 2014 et la glissade de Steven Gerrard, c'est compliqué. Uh-huh. Après
enfin ils sont toujours je veux dire ils ne renoncent jamais, c'est d'ailleurs bien le refrain de Liverpool aussi.
Et puis c'est le refrain de ce week-end parce que ce week-end ils se sont imposés face à Leicester à la 94e ou 15e minute sur penalty de Milner.
Ils n'ont pas justement la chance. Bon. Qu'il faut aux futurs champions. C'est ce souvent, il y a un peu de réussite. Là, ils en ont.
C'est ce qu'on disait déjà la saison passée. Notamment, il y a eu plusieurs matchs comme ça. Un souvenir d'un derby.
Un match contre Fulham où ils gagnent sur un péno.
Et puis un derby surtout contre Everton. Oui. Un derby de Merci avec un ballon qui rebondit 2 fois sur la transversale de Pickford qui s'en mêle et Origi qui marque le but. Donc non, on est déjà dans un peu dans la même situation que la saison passée.
De quoi doivent-ils alors peut-être se méfier ces Reds?
De même. Et en plus, la série, ils sont à 8 victoires consécutives. Donc plus la série avance, plus elle va s'arrêter. Donc forcément, ils vont perdre des points. Forcément, City va à un moment donné refaire une partie
mais
de leur retard.
Est-ce qu'ils doivent se méfier, par exemple, en négligeant certaines compétitions? Est-ce qu'ils doivent s'économiser? Est-ce que Klopp doit être prudent avec certains joueurs, ne pas trop les exposer, je sais pas.
Non, parce qu'on disait exactement la même chose la saison passée, parce que justement, ils se prenaient à y croire, et notamment à la Ligue des Champions, et en fait, ils sont allés en finale, ils ont gagné, ça les a pas empêchés de faire 97 points en Première Ligue et de chuter à un point. Et franchement, ce point-là, il n'a pas disparu en Ligue des Champions. C'est juste qu'ils ont un adversaire qui est redoutable avec City, qui va pas s'arrêter là, que c'est vraiment une vraie machine. Et voilà, le duel, il va. De toute façon, en Angleterre, on dit toujours, je vais pas refaire l'histoire de Ferguson, mais le titre ne se joue pas jusqu'à Noël, il peut se perdre à Noël. Mais jusqu'à Noël, il se passe rien, on va dire. Il faut ramasser un maximum de points et à Noël, des choses peuvent se décider.
Donc, Naïm, 8 points finalement.
Non, c'est rattrapable parce qu'il avait marqué l'année dernière le tournant, c'était la confrontation directe. Puisque Manchester City avait gagné, derrière Liverpool avait perdu beaucoup de points.
C'est souvent d'ailleurs dans beaucoup de championnats.
Ouais, voilà. Donc, ils avaient perdu pas mal de points sur des matchs nuls un peu bêtes. Donc, c'est évidemment la confrontation directe qu'il faudra surveiller. Il y a un autre facteur qu'il faudra surveiller, c'est Sadio Mané. Jusqu'à présent, Sadio Mané est étincelant sur toute l'année 2019, sur la deuxième partie de saison.
Sur les deux buts, hein, de toute façon.
Voilà, sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Et jusqu'à présent, il marque des buts, il fait marquer les autres, il fait des décalages. C'est le poison numéro un. Je serais quand même un petit...
Poison numéro un.
Je serais quand même...
Enfin, ça dépend de quel poison.
C'est positif, voilà, c'est un bon poison, mais c'est... il va falloir à un moment donné, je serais très surpris que physiquement ils tiennent le coup jusqu'au mois de mai.
L'année dernière, il a raison.
L'année dernière, ils avaient eu un coup de bambou en janvier. C'est souvent avec Klopp en janvier où il fatigue.
Si physiquement, même pas de canne.
Il va falloir voir à partir du moment où Sadio Mané va être dans une période de moins bien, où il va moins marquer, comment vont se comporter les autres? Est-ce que Salah et Firmino vont prendre le relais? Ou est-ce que, justement, le secteur offensif, qui aujourd'hui tourne quand même beaucoup autour de l'efficacité de Mané, est-ce que ça va un petit peu empiéter sur le résultat? Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et la confrontation directe, et la forme de Mané.
Justement, ce duo infernal entre Mané et Salah, depuis plusieurs années, qui l'année dernière termine meilleur co-buteur de cette première ligue. Eh bien, arrêtons-nous sur le cas Salah, parce que ça a beaucoup énervé Jürgen Klopp, et j'aimerais avoir le point de vue d'Eric là-dessus, lorsqu'il y a eu une faute assez prononcée d'un défenseur adverse.
On peut dire même un espèce d'attentat.
Ouais,
ça méritait le rouge. Clairement. Ouais.
Et ça l'a exaspéré Jürgen Klopp. Écoutons-le.
Je ne comprends pas comment ils peuvent faire une chose pareille. Pourquoi fait-il ce geste? Parce que le ballon est loin, c'est classique. Salah était en pleine course. Et si vous le mettez à terre sans vous occuper du ballon, je ne suis pas le seul à avoir vu l'action, mais c'est super dangereux. Alors, je ne veux pas causer de problème au gamin, mais il doit se calmer. Ça n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de geste. Il faut qu'il se calme. Choudhury est un super joueur, mais il ne peut pas tacler comme ça. Ce genre de geste n'est pas possible. On ne peut pas viser uniquement un joueur et s'en sortir uniquement avec un carton jaune.
Alors, la colère de Jürgen Klopp, c'est pas trop quand même le genre. On sait qu'il est emporté et tout, mais là, de viser un joueur, d'ailleurs, il s'en excuse presque un peu. Mais en même temps, effectivement, il défend son joueur. Et c'est vrai que Eric, ça vous étonne aussi qu'il n'ait pas pris carton rouge.
Oui, quand on voit l'action, c'est de toute façon par derrière. C'est très dangereux parce que d'abord parce qu'il prend pas le ballon. C'est-à-dire que là, dans l'histoire, le ballon, il n'est pas du tout visé par le joueur. C'est pas possible qu'il prenne le ballon. Donc, c'est là où ça devient dangereux et c'est là où il y a même pas de discussion à avoir. C'est carton rouge direct normalement.
Et puis c'est carton rouge par derrière, parce que par principe le joueur qui subit la faute ne voit pas venir, donc il peut pas sentir le coup, il peut pas ou essayer de sauter ou se redire, donc de toute façon par derrière c'est une sanction automatique.
Bruno, les réseaux sociaux s'en sont pris aussi à ce joueur, mais est-ce qu'il est coutumier du fait ou est-ce que c'est un peu accidentel? Il est jeune.
Oui, c'est un jeune joueur, très très bon jeune joueur de Leicester, qu'en train vraiment de monter. C'est pas quelqu'un de méchant, mais là sur le coup, ça ressemble un peu à des fautes techniques que font certains joueurs pour couper les actions en plein contre, pour annuler une occasion de but. Et là, ça ressemble à ça, sauf qu'il fait une grosse faute. Et il échappe de peu à ce carton rouge.
Et là, on rejoint ce qu'on disait Naïm, c'est-à-dire que si, par contre, Klopp devait se passer de Salah, ça serait effectivement compliqué pour ces Reds.
Heureusement, il a un Mané. Je voudrais juste conclure sur Mané, parce qu'on est, on est passé très vite sur lui. Et vous avez bien dit qu'il est bon sur toute l'année. Je rappelle juste ça à des tas de gens qui pourraient être amenés à voter prochainement.
Tu vises quelque chose.
Bon sur toute l'année, de janvier à mai, il est champion d'Europe. Ouais. Cet été, il est vice-champion d'Afrique. Mmh. Et là, il marque chaque semaine. Voilà. Ouais. Une année civile. C'est pas une saison. 2019, il est sans doute le meilleur joueur de l'année 2019.
Alors que Van Dijk
et on ne se lassera jamais de faire passer ce message.
Alors que Van Dijk, le meilleur joueur des derniers trophées, il est pas très bien depuis quelques semaines.
Ouais, exactement. Exactement. C'est plus l'impassable ni l'incontournable.
Et le petit Arsenal, Messi. Ah ben il vient de marquer un but. Bon, enfin, il a marqué un but cet été. Je dis ça comme ça en passant.
En tout cas, nous, personne ici dans ce bureau, dans ce studio ne vote, mais avis aux votants alors qui nous écouteraient, qui auraient un petit doute. Continuons donc après ces Reds qui sont en tête de la Première Ligue. On s'arrête sur la Première Ligue aujourd'hui, Bruno, non seulement parce que vous êtes là, mais comme il y a la trêve internationale, c'est vrai que ce classement est un peu figé pour quelques jours et du coup ça le rendait très intéressant. Alors Manchester City craque, a craqué. On n'est pas vraiment habitué à voir cette équipe craquer. On va s'arrêter quelques instants pour comprendre. On est plutôt habitué aux victoires et aux scores fleuves. Alors que se passe-t-il dans cette équipe? Pep Guardiola l'a avoué hier, c'était un jour mauvais ou un mauvais jour, ça dépend de l'anglais comment on le traduit. En tout cas, les Citizens en manque de réussite, eh bien sans doute à cause de leur défense, puisqu'ils ont encaissé deux buts et on avait l'impression qu'il avait bricolé sa défense. Mais est-ce que ça serait pas peut-être en numéro un à cause de cette infirmerie qui est pleine? Alors, on a l'habitude à City, ça arrive quand même un peu tous les ans. Je pense à Mendy, ça fait, il a pas enchaîné deux matchs depuis 11 mois. Voilà. Mais on a aussi De Bruyne qui est de nouveau blessé. Ça lui arrive quand même assez souvent. Sané est blessé pour un certain nombre de semaines. Laporte, pareil.
Stones aussi.
Et Kun Agüero, ça lui arrive assez régulièrement et tout. Est-ce que c'est pas ça qui risque, par contre, de menacer un peu l'équipe de Pep Guardiola? Les blessés. Et les blessures.
Forcément. Mais si un effectif.
Et les joueurs fragiles.
Ouais, en même temps, si un effectif aussi riche que celui de Manchester City se plaint des blessures et des absences.
Oui, mais sauf que même s'il est si riche, c'est quand même souvent les mêmes qui font la décision.
Mais les autres clubs, à ce moment-là, ils peuvent plus lutter non plus, et c'est même pas la peine. En plus, ces blessures-là, il y a même pas de doute sur le staff médical, parce que c'est souvent des blessures traumatiques ou de coups ou d'entorses. Donc, il y a vraiment, Guardiola, pendant un temps, c'était plein des adversaires qui visaient un peu ses joueurs, très techniques, etc.
Non, mais là, c'est du long terme et du long durée, les blessures.
Après, il y a des blessures qui peinent plus que d'autres et qui pèse beaucoup plus que d'autres. La première, c'est Laporte, déjà, en défense.
Oui, effectivement.
Parce qu'effectivement, là, ils bricolent. Ils n'avaient pas remplacé Compagnie qui était parti cet été. Laporte, c'était le titulaire indiscutable. À côté de Laporte, Otamendi était plutôt...
discutable, mais là...
correct, on va dire. Et là, c'est juste catastrophique. À côté de Fernandinho, qui était un milieu défensif, Fernandinho était meilleur qu'Otamendi. Donc là, il y a un gros souci, parce que Otamendi, c'est vraiment une faiblesse de cette équipe maintenant. Et puis Kevin De Bruyne, depuis le début de saison, il était étincelant, quoi. C'était le meilleur joueur de City, il était revenu à son meilleur niveau après une année quasiment blanche, et franchement, il métamorphosait cette équipe. Sans lui, il y a un petit peu moins de créativité, et donc ça repose sur d'autres. Là, en l'occurrence, Bernardo Silva était sur le banc au coup d'envoi, donc c'est un peu surpris. Mais voilà, c'est aux autres de prendre la relève. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude parce que sur le match sur Wolverhampton, certes, ils font pas un grand match,
non,
mais c'est pas un match raté.
Non,
ils ont 18 tirs, ils ont plein d'occasions, ils touchent la barre. Enfin, c'est.
Ah mais ils perdent 2-0.
Ils perdent 2-0, mais ce qui, moi, je trouve ce qui transpire un peu de ce match, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués un peu. C'est-à-dire que on sent pas la percussion qu'ils peuvent avoir habituellement, même s'ils ont eu des actions. Hein. Attention, il y a une équipe en face qui a été solide aussi défensivement.
Ça ronronne un bien peu plus que d'habitude.
Ouais. Et puis après, en sortie défensivement, c'est chaud quoi, parce que là, les buts qu'ils prennent, c'est quand même un naufrage de tactiquement. Tu peux pas te permettre d'être battu comme ça aussi rapidement.
Ça surprend de la part du champion d'Angleterre quand même. Naïm.
Oui, ça surprend parce que c'est surtout la deuxième défaite à domicile en 3 semaines.
Il y a eu une Norwich
14 septembre.
Et l'année dernière, c'était deux défaites sur la saison, si je me trompe pas,
sur,
ou deux ou trois.
Une ou deux défaites, oui.
C'est deux défaites en 3 semaines. Et quand on parle des défenseurs, sur les 2-3 dernières années, Manchester City a successivement battu les records sur les défenseurs. Ils ont fait Kyle Walker, il y a eu Mendy, il y a eu Stones,
beaucoup de latéraux.
Il y a eu Laporte, voilà. Stones et Laporte, c'est les centraux quand même. Donc il y a quatre défenseurs.
Ils ont acheté
très cher des défenseurs qui finalement soit ne font pas l'unanimité à leur niveau, soit sont tout le temps blessés. Et puis c'est vrai que De Bruyne il apporte, il fait un début de saison De Bruyne fait un début de saison extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais quand bien même il est blessé, quand vous avez les deux Silva, quand vous avez Mahrez, quand vous avez Sterling, quand vous avez Agüero, quand vous pouvez pas vous dire il y a un seul, d'accord, il est plus fort que les autres, mais ça peut pas se limiter, les mauvais résultats peuvent pas s'expliquer juste.
Non mais c'est peut-être lui qui cachait l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'était lui
mais
souvent qui était décisif
quand même de quelque chose
saison.
C'est que les associations Gundogan Rodri ne marchent pas. Gundogan Rodri, ça ne marche pas au milieu parce que Fernandinho était bien meilleur pour couper les lignes de passe, bien meilleur pour harceler le porteur du ballon. C'est pas le même style Rodri et Gundogan et ça marche pas, ça marchait pas contre Norwich, ça a pas marché hier. Et à un moment donné, si vous regardez la défaite de Norwich, vous regardez la défaite de Wolverhampton, si vous avez pas le mec...
Vous l'attribuez à quoi alors vous, Naïm,
je pense qu'à un moment...
Cette deuxième défaite.
Mais je pense que d'abord, derrière, ils ont vraiment besoin d'un à deux défenseurs. Mm-hmm. Et puis surtout, le fait que les joueurs offensifs prennent pas non plus toutes leurs responsabilités. On peut pas tout remettre sur le dos de De Bruyne. S'il est là, ça gagne. S'il est pas là, ça gagne pas. Avec les joueurs qu'ils ont, ils doivent faire autre chose. Et si vous prenez le match d'hier, si vous prenez le match de Norwich, dès qu'ils sont en difficulté, ils envoient des cacahuètes sur l'attaquant de pointe, des ballons de 50, de 60 mètres. À quel moment Manchester City a déjà gagné comme ça? C'est pas possible.
Moi, je dis pas que City gagne avec De Bruyne, ne gagne pas sans De Bruyne. La preuve, ils sont champions l'année dernière sans lui.
Bien sûr.
Je dis juste que sur le début de saison, à chaque match, il était décisif.
Entièrement d'accord.
Décisif. Mais... Et peut-être que justement, il cachait quelque chose et qu'il y a un petit mal, pas plus profond, parce que je pense pas qu'il y a un gros souci à City.
Non, non.
Mais effectivement, il y a Cancelo. Cancelo est arrivé avec un énorme transfert, la prendre de la Juve, soi-disant le meilleur latéral, etc. Il est passé complètement en travers. Et puis il y avait un adversaire, les Wolverhampton,
qui joue ça. Est-ce que ça n'est pas aussi un manque de réalisme pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Eric et Bruno? 76% de possession de balle, c'est quand même énorme. Ils ont la balle les trois quarts du temps et pour aller vers les tirs, 18-7. Mmh. Ouais. Ça aussi, c'est quand même énorme. Donc ça prouve qu'il y a quand même toujours du jeu, de la création et que
bien sûr.
Il y a un vrai problème peut-être de finition le moment venu.
Sylvain met son coup franc et ça change tout aussi. Donc
Eric.
Mais
je veux dire, c'est pas voilà. Des stats d'une équipe. Alors, malade.
Moi, je veux bien. Non,
ils sont pas malades. Je pense pas qu'ils soient malades.
Je veux bien que si Silva met son coup franc, c'est pas le même match. Il y a 18 tirs.
Oui.
Mais ça peut faire 2-0 au bout de 20 minutes en première mi-temps pour Wolverhampton parce que Cutrone il gâche deux face à face.
Le premier surtout, il est.
Et c'est ta défense centrale, que ce soit Otamendi, que ce soit Fernandinho, ou même parce qu'ils sont pas bien protégés par les milieux défensifs que je te disais tout à l'heure, tu t'es retrouvé trop souvent en difficulté. Wolverhampton, c'est une équipe qui joue bien au foot. Il y a de beaux joueurs, machin, mais c'est pas non plus extraordinaire.
Non, mais c'est l'équipe qui a toujours causé des soucis. Enfin,
bien sûr,
c'est un de ceux qui a un des meilleurs records face à Guardiola.
Ouais.
L'année dernière, il aura fait énormément de misère. Il perd 3-1, mais un match fantastique.
Les défauts de Manchester City que tu identifies face à Wolverhampton, tu peux les retrouver face à des équipes qui sont nettement plus fortes que Wolverhampton. Parce que c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus du top niveau.
En tout cas, honneur quand même au buteur, hein, Adama Traoré, des Wolves, chez les Loups, n'est-ce pas? Un Espagnol, hein, Adama Traoré, en dépit de son nom, parce que vous pouvez se demander.
Comme son nom l'a dit.
Je tenais à préciser, parce que même moi, hier, je me suis dit, mais au fait, c'est lequel?
Aussi, l'Espagnol, vous savez,
bien sûr.
Donc, Adama Traoré, formé au Barça, et donc, qui est là, et qui était double buteur hier. Parlons, arrêtons-nous sur une autre équipe, alors qui elle inquiète, mais inquiète parce que là c'est dans un sens peut-être pire que celui de Manchester City, c'est celle de Tottenham. Les Spurs, qui ces dernières années terminent plutôt bien l'année, terminent pratiquement toujours sur le podium, ou en tout cas dans le Big Four, eh bien ils sont 9e et surtout à 13 points du leader. Ils ont perdu à Brighton par le score de 3-0 en encaissant 10 buts sur les deux derniers matchs. Alors on se souvient du 7-2 du 7-2 face au Bayern Munich. Et surtout, écoutons ce commentaire de la télévision, la chaîne qui retransmettait le match en France, parce que le gardien est capitaine, et c'est Hugo Lloris, s'est blessé, et sans doute pour 2 à 3 mois.
Première occasion de but avec ses joueurs également. Nouvelle erreur demain, c'est une catastrophe, et ça illustre parfaitement ce qu'il se passe aujourd'hui à Tottenham. Hugo Lloris pour une deuxième bourde, mais Hugo Lloris peut-être aussi touché sur cette action-là, terrible à la fois pour Mauricio Pochettino, mais on a envie de mettre ça de côté parce que c'est terrible surtout ce qui se passe pour Hugo Lloris là. On a vite envie d'avoir des nouvelles d'Hugo Lloris qui va évidemment sortir sous les applaudissements de l'Amex Stadium.
Un stade qui applaudit et des inquiétudes autour du cas de Lloris. Tout à l'heure, Didier Deschamps l'a évoqué, Olivier Pron. Et alors, il serait indisponible jusqu'à la fin de l'année, mais l'année civile.
Ouais, en fait, il précise bien, Didier Deschamps, qu'il n'a pas d'autres précisions données, qu'il s'est entretenu avec lui samedi soir et ce matin à nouveau. C'est quand même son capitaine.
Donc,
et c'est vrai qu'en équipe de France, ça manque. On placera au passage que Steve Mandanda en bénéficiera, puisque ce sera lui le titulaire pour les deux matchs
numéro
en Islande.
Deux, oui.
Et il est numéro 2, mais en fait, il sera numéro 1. Mm-hmm. Il sera bien le titulaire pour les deux prochains matchs. Et Hugo Lloris, la seule chose que dit Didier Deschamps, c'est que, ça on savait, il n'y a pas de fracture, mais il y a peut-être des tendons qui sont touchés. Mm-hmm. Et donc, il dit, on ne le reverra pas cette année, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire cette saison.
Donc,
cette
2019.
Année, c'est sûr. Donc, l'espoir, c'est peut-être mars, Didier Deschamps, parce que c'est clair que si Hugo Lloris n'est pas du rassemblement de mars, on voit mal comment il pourrait ensuite être là à l'Euro s'il n'est pas avec les Bleus pendant 6-7 mois. On verra bien. Il peut peut-être revenir.
Il nous a fait venir Mendy qui n'avait pas quasiment joué la saison. Je peux te dire qu'il
n'aura pas de scrupules. En tout cas, il ne s'est pas avancé. Et puis, je crois que personne ne sait au jour d'aujourd'hui quelle sera la durée d'indisponibilité de Hugo Lloris. On parle de 3 mois minimum. Si jamais c'était 6 mois, ce serait quand même beaucoup.
C'est-à-dire que 3 mois pour revenir à la compétition, mais pour récupérer son niveau, tu peux en coter autant.
Bien sûr. C'est la rééducation qu'il y a derrière.
C'est un gardien, c'est pas pareil quand même.
Mais c'est un gardien, c'est un membre supérieur le coude. Mais non, ça va pas plus vite. Mais c'est ton coude, c'est gardien de but, c'est ton coude.
Un gars comme Lloris, il va revenir en un mois, il est revenu à son niveau. S'il a un mois de compétition, ça lui suffira. En plus, c'est quelqu'un sur les grands.
Eh bien, justement, Bruno, vous dites, il reviendra à son niveau. Alors, quel niveau?
C'est la question. Justement, quel niveau d'un gars qui a pris 8 buts en 2 matchs et encore en un match et demi avant d'être sorti sur civière.
Effectivement, et on entend le commentaire au départ. C'est pour ça qu'on voulait vous le faire le partager avec vous, parce que effectivement, on signale d'abord l'erreur de main et après, comme il y a cette blessure, le stade entier applaudit. Mais est-ce qu'il est dans une mauvaise passe, Hugo Lloris, Bruno Constant? Il avait été défendu par Pochettino dans le match face au Bayern.
Il a régulièrement des mauvaises passes, on va dire. Une fois par saison, il y a un moment où...
Des fois, plusieurs fois.
Il a
parce qu'en France, on s'en souvient, ne serait-ce que la finale de la Coupe du Monde. On se souvient aussi à la Suède.
Mais là, il n'est pas dans une mauvaise passe, pour être honnête. Il n'est pas dans une mauvaise passe.
C'est l'équipe entière.
Il subit un enchaînement de mauvaises choses. Aussi bien de l'équipe et lui. Mais on va reprendre le match de Southampton. Il fait une grossière erreur de relance au pied, enfin de dribble, etc. C'est pas la première fois qu'il le fait, il en fera encore parce que Pochettino veut qu'il fasse ça. C'est ce que lui demande sur l'entraîneur.
Pas tout le temps.
Non, mais
derrière
relance au pied.
Le dribble.
De prendre des
risques dans la relance au pied. Sur ce match de Southampton, la deuxième période qu'il fait, il fait une deuxième période exceptionnelle. Il sauve son équipe. Clairement, il préserve la victoire de son équipe. Donc ça, c'est une chose. Le match contre le Bayern, moi j'ai regardé les 7 buts.
Non mais...
Il ne peut en arrêter aucun. Les buts du Bayern sont hallucinants. C'est des frappes de 16-18 mètres, ras du poteau, en une touche. Enfin, c'est juste extraordinaire. Donc il est coupable sur aucun des 7 buts. Et sur ce match-là, certes, il fait une grosse erreur. Ça arrive en tout début de match, c'est la 3e minute de jeu.
Alors c'est la défense de Tottenham qui va pas?
Bah, elle est catastrophique.
Elle est catastrophique.
Elle est pire que celle de City.
Totalement abandonnée. Vertonghen, Alderweireld, c'était la meilleure défense de première ligue, charnier en tout cas, il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est méconnaissable parce que les deux joueurs ne savent même pas s'ils vont porter le maillot de Tottenham cette saison. Le club n'en veut plus. C'est des gens qui approchent la 30 ans ou qui ont 30 ans pour Alderweireld, même 31 ans, qui sont en fin de contrat ou un an de la fin de leur contrat. Le club veut les vendre. Quand vous n'êtes pas désiré comme ça dans un vestiaire, dans une équipe, que l'entraîneur compte pas vraiment sur vous, c'est bizarre quand même comme attitude. Et c'est la même chose avec Eriksen qui a du mal à retrouver son niveau, qui était sur le banc même à plusieurs matchs.
Mais il a pas commencé.
Il y a un espèce de bordel, parlez-moi l'expression, dans ce vestiaire de Tottenham, c'est juste catastrophique.
Mais c'est étonnant peut-être, Naïm, parce
que... Non, c'est pas étonnant.
Alors, on avait l'impression qu'il y avait une tendance à vouloir assurer la stabilité dans cet effectif. Ça fait longtemps qu'ils ne recrutent pas véritablement.
Oui, mais
si vous vous rappelez bien, Pochettino, il n'avait jamais vraiment dit qu'il allait rester en fin de saison dernière. Donc, tout le monde l'annonçait
après
un peu partant.
Il avait même dit qu'il partirait s'il gagnerait la Ligue des Champions.
Bon, il n'a pas gagné.
Et il y avait peut-être un peu de fond de vrai là-dedans.
Non, mais c'est peut-être que lui ne se voyait pas non plus à Tottenham cette saison. Tout à l'heure, Bruno parlait de Vertonghen et d'Alderweireld. Eriksen, je pense qu'il a jamais digéré son faux départ au Real Madrid. Je pense qu'il se voyait vraiment pas à Tottenham cette saison. Que les recrues qui sont arrivées, que ce soit Cessegnon, que ce soit Lo Celso, elles sont blessées et que par de fait, elles peuvent pas jouer. Et donc, il fait du bricolage. Vous mettez Moussa Sissoko arrière droit. Déjà que milieu de terrain, c'est quand même pas celui sur lequel on compte le plus pour jouer au ballon, mais s'il est arrière droit, il sert plus à rien. Il ne sert vraiment plus à rien. Donc, et Eric Dyer qui était titulaire sur un match comme ça après une débâcle en Ligue des Champions alors qu'il a jamais été titularisé de la saison. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a pris un peu l'eau. Voilà, c'est pas une responsabilité personnelle. Tout le monde a pris l'eau. Le problème, c'est que tout le monde prend l'eau toutes les semaines.
Eric, comment on fait pour réparer un vestiaire comme ça?
Bref,
quand tu joues, plus personne ne s'en concerne.
C'est pas facile parce que c'est un petit peu les résultats qui font que bah ça repart et il y a une dynamique et tout ça. Sauf que les résultats là et puis les prestations.
Bah ouais, mais si on n'a pas envie de jouer,
les prestations
si
vont pas amener de résultats, ça c'est sûr. Mmh. Parce que là, quand on voit le match de Tottenham, c'est une catastrophe. Ouais. Les buts qu'ils prennent, le deuxième but. Là,
mais c'est la trêve. Qu'est-ce qui peut se passer pendant la trêve?
Déjà la trêve, ça doit permettre.
Il y a des matchs avant la trêve.
Non, mais durant la trêve.
La trêve, pardon.
Eux, ils ont pas de trêve même.
Ça devrait. Enfin, encore qu'il y a beaucoup d'internationaux. Donc, ils vont peut-être pas être là. Mais ça va donner, je pense, du temps à Pochettino et à ses dirigeants de peut-être se réfléchir, de parler, de savoir ce qui se passe. On dit que l'entraîneur est de plus en plus distant des entraînements, de ses joueurs, etc. C'est à moitié vrai parce
que vous nous aviez raconté que pendant une demi-heure, il s'était enfermé avec ses joueurs après le match du Bayern.
Mais là, on raconte que maintenant, les entraînements, il les suit sur des écrans, on surnomme Big Brother, qui vient plus aux entraînements, ce qui est pas totalement vrai, mais pas totalement fou. Il le faisait déjà avant.
Il pourrait partir.
Avant, ça posait pas de problème. Là, ça poserait un problème.
Plus vite que prévu.
J'ai du mal à le croire. Il coûterait très cher parce qu'il a un gros contrat maintenant. Après, la chose, c'est que lui, ça fait un moment qu'il aimerait partir, voir ailleurs s'il n'a pas les moyens. Et lui, depuis cet été, il estime qu'on ne lui donne pas les moyens. En début de saison, il a dit « Ne m'appelez pas manager, je suis un coach. Je ne suis pas en charge du recrutement, je n'ai pas mon mot à dire, je suis coach. » Et ça, c'est monté en haut et ça n'a pas plu, évidemment.
Il est au Qatar, là, en ce moment. Participe à un colloque sur l'Académie Aspire. Non, mais c'est bon, plus. Il est au Qatar, il est parti là-bas. Trois jours, donc.
Il est allé prendre l'air, hein, lui, alors qu'on pensait qu'il discuterait avec ses joueurs. Mais bon. ceux qui rient, eh bien, ce sont, et c'est pas habituel, les Gunners. Les voilà sur le podium, troisième du championnat. Et il y a bien longtemps que c'était pas arrivé. On a trouvé ça en 2019, mais c'est vrai que des fois, ça dure pas beaucoup ou pas longtemps. Là, au moins, ça dure à la trêve internationale. Les hommes d'Unai Emery ont enregistré en tout cas une quatrième victoire. De quoi, eh bien, satisfaire Matteo Guendouzi, le Français qui joue à l'arrière de cette équipe et qui salue, eh bien, un camarade de l'avant, Nicolas Pépé, qui se rapproche peu à peu du but.
Il a fait la passe D à David Luiz le dernier match, donc non, c'est que c'est un joueur qui va vraiment beaucoup nous apporter cette saison. Je sais qu'il va marquer beaucoup de buts, qu'il va faire beaucoup de passes D, qu'il va faire beaucoup de différences, et on sait tous en tout cas que c'est vraiment un plus pour nous cette saison.
Un plus, Pépé, cette saison. Alors bon, il avait marqué, on se souvient, sur penalty, mais là, il contribue à cette victoire. Est-ce qu'il est sur la bonne voie, Pépé?
Contribue, c'est un corner, hein, si je me souviens bien.
Oui.
Bon, il y a beaucoup qui contribuent.
On peut pas lui enlever ça, quand même.
Non, mais un corner,
parce que les corners, faut bien les tirer.
Non, mais il y a beaucoup, les corners, quand même. Oui, je suis d'accord.
Mais ceux qui balancent, c'est qu'ils les tirent très mal, et ça sert à rien.
Je taquine, mais c'est vrai qu'il faut qu'il se montre un peu plus décisif.
Il est pas fan.
Et il faudrait qu'il se montre un peu plus d'ici. C'est un peu dur en ce moment, et notamment je me souviens ce match à Old Trafford où on attendait beaucoup de lui, et en fait on a parlé que d'un gamin de 18 ans qui s'appelait Bukayo Saka, qui jouait sur l'autre aile côté gauche, qui avait 18 ans et premier match à Old Trafford, et il a fait un super match. C'est dur pour Pépé, c'est sûr. Il a un gros transfert, 80 millions d'euros. Lui-même a fait un choix mesuré d'aller dans un club un peu plus tremplin comme Arsenal plutôt que le Bayern ou Liverpool. Maintenant, il faut qu'il saisisse sa chance. Mais voilà, il y a des joueurs comme ça qui ont un peu plus besoin de temps pour s'adapter. C'était pas le cas.
Il est jeune en plus.
Il est jeune, oui. Puis il est jeune dans le très haut niveau.
Il sort d'une canne ratée. Tu passes de Lille à Arsenal, c'est quand même pas le même niveau, pas la même pression, pas le même contexte. Enfin, c'est là tu découvres quand même un truc.
C'est-à-dire la canne, il a tout découvert d'un seul coup. Donc c'est
le problème de Pépé, c'est qu'il avait bien commencé la saison. Je trouve, alors il marque pas, mais je trouve qu'il avait bien commencé la saison sur certains matchs. Il y a des séquences de jeu qui sont intéressantes. Il s'est procuré des occasions. Il a fait des passes D. Mais c'est vrai que le match contre Manchester l'a quand même vraiment ramené sur terre. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit un petit peu plus fort dans la tête, parce que les qualités footballistiques, il les a. On sait qu'il va vite, on sait qu'il est doué avec le ballon, il sait finir. Mais je pense que dans la tête, il doit apprendre à devenir un homme, comme on dit, à passer l'étape du dessus. Ça avait été un petit peu le cas pour d'autres attaquants qui se retrouvent dans la même situation que lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est bien entouré parce qu'il est très proche des Français, enfin des joueurs francophones.
Le point surtout, c'est qu'il lui manque, c'est la casette qui lui manque en fait. Dans la relation technique, d'avoir un point d'appui.
Tu vois, y a un truc...
Aubameyang, c'est pas le même type d'attaquant. Aubameyang, c'est quelqu'un de profondeur, c'est quelqu'un qui va demander le ballon pour aller marquer. Pépé, il a besoin d'une relation technique avec son
ensemble. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est que alors là, il est blessé, donc le problème se pose pas la casette, mais quand il est disponible, en tout cas, Emery le titularise pas toujours. Donc il pourrait,
Le début de saison,
au moins essayer d'associer les deux machins. Ouais,
on sait que l'année dernière, il a mis du temps.
Il n'a pas eu beaucoup de vacances en plus après.
Il a quasiment pas eu.
Il y a un temps d'intégration qui doit accepter, parce que Là, ça prend du temps, même s'il a toutes les qualités pour réussir à Arsenal. Voilà, il faut qu'il s'intègre dans un collectif. C'est pas toujours facile. Là, et en plus, surtout qu'il arrive dans une équipe où on jouait quasiment tout pour lui quand même. Ouais. Même à la fin, même s'il y avait un bon collectif, il jouait quand même tout pour lui. Donc là, c'est compliqué.
Il faut que président
allez-y. Olivier, une chose, Arsenal se retrouve troisième de ce championnat anglais. Mais peut-être qu'on pourrait se dire, et on peut le dire en regardant le classement, c'est qu'il profiterait aussi des défaillances des concurrents. Tottenham, Chelsea et Manchester United.
Oui, mais c'est intéressant de voir derrière Liverpool, on l'a dit, Manchester City est à 8 longueurs, mais finalement, Manchester City, Arsenal, Leicester, Chelsea, Crystal Palace, on a là 5 équipes qui se tiennent en 2 points. Des habitués, certes, Arsenal, City, Chelsea, Crystal Palace et Leicester sont les surprises, mais c'est vrai que sont les surprises qui profitent de la faillite de Manchester United, parce qu'on a parlé de la faillite de Tottenham, celle de Manchester United, c'est quand même c'est Manchester mal. United.
Troisième
et 12e avec 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 9 points seulement.
9 points et 9 buts en 9 journées.
Exactement.
En 8 journées.
Et 8 encaissés, donc ils sont à plus 1. Ouais. Donc voilà, il y a ces faillites-là, et puis il y a comme souvent dans ce championnat de Première Ligue, une ou deux bonnes nouvelles. Ouais. Leicester qui retrouve un peu de son
c'est
lustre
pas mal, hein.
Il y a 2-3 ans.
Qui est une semi-surprise, parce qu'on les attendait.
Palace, c'est
attendait là.
Aussi. Mais c'est Palace, vrai que voilà, on a un vrai, pour l'instant, pour la 2e, 3e, 4e place, on a un vrai petit troupeau là.
Ils ont un peu souffert quand même, Arsenal là. Oui,
c'est
gagné à 0.
C'est ce que j'avais dit. C'est pas face ric-rac à chaque match.
Le jeu d'Arsenal est quand même assez pauvre, et finalement, pour Pepe, c'est compliqué aussi de jouer dans une équipe comme ça. Aubameyang, à lui tout seul, il a ramené 9 points.
Rappelez-moi le nom de l'entraîneur.
Unai Emery.
C'est ça.
C'est pas bien. Non mais Aubameyang, il a ramené 9 points lui tout seul depuis le début de la saison. Tu te rends compte quand même, je pense qu'il n'y a pas un attaquant qui a ramené autant de points à son équipe. Donc c'est aussi l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on l'a toujours dit, c'est une équipe qui est coupée en deux, qui a un beau secteur offensif, mais qui derrière est quand même assez faible. Et aujourd'hui, les buts, l'efficacité, les victoires, c'est essentiellement Aubameyang. Hein. Quasi exclusivement d'ailleurs.
Eh bien, il y a du suspense dans cette première
ligue. Ne pas oublier Chelsea. Quelle belle saison, début de saison de Chelsea avec ces jeunes-là.
Faudra
magnifique ce que
vienne,
fait Lampard.
Mais on en a beaucoup parlé au moment, effectivement, ces derniers jours, quand on les a vus notamment gagner du côté de Lille, et en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on loue beaucoup ces jeunes qui arrivent du côté de Chelsea et Lampard,
et c'était
son
pas gagné.
Travail.
Ouais. Effectivement. En début de saison, souvenez-vous, on disait qu'il y a du temps et tout ça.
Tout le monde remarque
après 8 journées, ils sont 5e.
Voilà, la qualité du jeu, mais effectivement, il n'y avait pas encore les résultats. Et ça commence.
Il a fait des vrais choix pour le coup. Ah, il a fait des vrais choix.
Voilà comme quoi les entraîneurs des fois peuvent avoir une véritable influence sur une équipe. Et justement, on va en parler. On passe à la Ligue 1.
4 minutes de bonheur en plus à Geoffroy Guichard et Robert Berić. Et Robert Berić dans les 5-50 qui fait basculer ce derby à l'ultime seconde et qui envoie les supporters des Verts au 7e siècle.
Je suis très content que j'ai marqué un derby. Et pour gagner un derby, ça c'est le plus important. C'est un rêve de rentrer comme ça et marquer.
Le coup de Geoffroy Guichard, et Geoffroy Guichard qui s'enflamme hier soir. Ce but de la dernière minute était donc au profit des Verts. On a déjà vu des buts marqués à la dernière minute par Lyon, et ça faisait toute la joie du stade et des supporters lyonnais. Alors il y avait si longtemps que le peuple vert attendait cette rédemption face surtout aux frères ennemis lyonnais, même si il y a eu quand même un tifo. Nous qui avions donné notre carton vert à un très joli tifo et très philosophique vendredi dans le café des sports. Aujourd'hui, on trouve qu'il y avait un tifo plutôt à bannir du côté de Saint-Etienne. Hein, un énorme tifo qui disait tellement de raisons de haïr l'ennemi. Alors, c'était...
Rien à faire dans le stade.
Exactement. Bon, alors donc, ils ont gagné face à Lyon, mais surtout, ils ont aussi assis leur première victoire de la saison en championnat. Alors, c'était le 119e derby ou le 106e en championnat. À qui créditer ce but inscrit à la 90e minute par le Slovène Robert Berić aux joueurs et à leur ténacité, ou bien au changement d'entraîneur? On vous en a parlé vendredi, Ghislain Printemps était parti par la petite porte, arrivé Claude Puel, et Claude Puel, ancien entraîneur de Lyon, on l'a tous vu fêter ce but, et écoutons-le à qui, lui, il attribue cette victoire.
Une grosse félicitation aux joueurs qui ont été très structurés, très concentrés. Je pense qu'ils ont joué un très bon match. dans la densité, dans l'intensité, dans la discipline. Ensuite, on sait qu'on a encore des progrès à faire pour mieux ressortir le ballon, le perdre moins rapidement. On a encore du déchet dans le jeu, bien sûr, mais c'est des choses petit à petit qu'on pourra corriger en prenant de plus en plus confiance. Donc voilà, je suis très satisfait en tout cas de la prestation et on a été récompensé à la fin parce qu'on a gardé la structure et malgré la fatigue, on est allé chercher ce résultat.
Naïm Ognol, il est trop modeste, Claude Puel.
Oui, non, mais il a un discours de circonstance évidemment qu'il a toute sa part de responsabilité dans cette victoire. D'abord parce qu'il a fait des choix au coup d'envoi.
Et des choix qui sont des choix, vraiment
des choix
très marquants.
Payants, des choix, voilà, Diony, Boudbouz, c'est des joueurs qu'avec Printemps, vous voyez
pas. Caserie sur le banc.
Caserie sur le banc, oui, forcément. et puis des choix en cours de match, de faire rentrer notamment Robert Berić, qui était pas l'attaquant préféré, justement, de Ghislain Printemps. Il arrive deux jours avant un derby. Moi, j'ai fait une comparaison très simple, c'est avec Rudy Garcia, quand il arrivait à Marseille, il jouait Paris tout de suite. Et on avait vu un match horrible, il n'y avait pas eu une frappe au but, on avait dit, c'est quand même un peu bête, parce qu'il a tout à gagner sur un match comme ça. S'il perd, c'est pas de sa faute, s'il gagne, machin. Bah, Puel a fait exactement l'inverse de Garcia. C'est-à-dire qu'il a demandé aux joueurs de bien jouer, de mettre de l'intensité, de courir. Il n'y a pas vraiment de maîtrise technique à Saint-Etienne. C'est pas très beau avec le ballon. Mais ils ont tellement compensé par autre chose que finalement, ils ont une victoire méritée. Boudbouz, en plus, aurait pu marquer. Denis Bouanga, il y a eu un très bon Anthony Lopez. Le score aurait pu être plus large. Donc, bravo à lui. Ce qu'il fait en deux jours, que ce soit se mettre les supporters dans la poche, le déclic psychologique, relancer certains joueurs, en remettre d'autres en question pour piquer un petit peu au vif, je trouve qu'il a tout bon sur cette soirée.
Eric, le regard d'un joueur, le vécu d'un joueur, en milieu de saison comme ça, ou là, bon, en l'occurrence en début de saison, c'est la 8e journée, mais on change d'entraîneur, en plus on se retrouve avec un entraîneur qui insiste pour être là pour ce derby qui est un peu le match au sommet, en tout cas pour ce qui est de Saint-Etienne, et de recevoir dans son stade où il ne gagne plus depuis si longtemps, et cet entraîneur qui leur est venu indirectement de Lyon, et tout d'un coup, ça marche, on va dire, le coup. C'était prévisible?
Non, c'était pas prévisible.
C'était trop risqué, ouais, alors?
Non, c'était bien. C'était, de toute façon, il n'y avait rien à perdre pour Saint-Etienne. Quoi qu'il arrive, quand on voit les matchs précédents de Saint-Etienne...
Ils avaient gagné à Nîmes.
Ils avaient gagné à Nîmes, mais surtout, le visage qu'ils ont donné depuis le début de saison, c'est quand même assez laborieux. La défense, Perrin qui est complètement débordé par... Et puis finalement, on voit ce match-là qui ressemble quand même à un match plutôt intéressant et qui est plutôt une victoire qui n'est pas volée, je pense. Non. Sur la physionomie, c'est plutôt pas volé. Et Puel a été assez malin pour se dire que voilà, il l'a dit dans son discours là sur son interview où il dit voilà, ils ont été structurés et c'est exactement ce qu'il leur a demandé, d'être structurés, d'arrêter d'être dépassés par tout ce qui se passait autour, de rester concentrés sur l'équilibre d'équipe et après d'essayer de profiter de tout ça.
Olivier. On peut imaginer qu'avec son adjoint Jacky Bonnevet, il travaillait sur ce match-là depuis quelques jours. Évidemment, ils ont pas débarqué comme ça dans l'inconnu en prenant connaissance de l'effectif et de dans quel état était l'effectif. Qui jouait,
mais c'est un beau challenge pour Puel.
C'est un super challenge. Il aurait pu très bien dire j'arrive après le derby. C'était un vrai risque pour lui d'arriver pour le derby. On sait toute la pression qu'il peut y avoir. C'est sûr que s'ils avaient perdu, voilà. Là, l'intérêt, c'est que c'est tout bénef pour lui. Il arrive, il gagne le derby. Les supporters stéphanois pouvaient dire c'est un gars qui vient du camp d'en face. Là, en un match, il gagne le derby. C'est le match le plus important de la saison.
Il gagne la foi de tout le monde, surtout.
En même temps, ça s'est tellement mal terminé avec Lyon que quelque part, les supporters stéphanois le détestent
pas. On peut pas l'associer à Lyon.
Non, mais de toute façon, il vient de Lyon. Et en gagnant ce match-là, il a gagné un mois ou deux mois de temps. Il a tout de suite du crédit. Après, on va pas s'apesantir sur la qualité générale de ce match-là. Quand on fait la promo de la Ligue 1 et qu'on voit le derby, c'est notre derby à nous qu'on a. Les Anglais en ont plein. Nous, en France, on n'en a pas 36. Il y avait des Lille-Lens dans le temps.
Il y en a des
Montpellier-Metz, il y a eu dans le temps. Mais alors, quand vous voyez le Lyon-Saint-Etienne, vous dites chic-chic-chic, ou Saint-Etienne-Lyon, quel ennui.
Non mais ce qui est très fort, c'est que sur deux jours footballistiquement, tu peux rien préparer. Il a même pas le temps de rencontrer les joueurs, d'avoir des entretiens avec eux.
C'est pour ça qu'il a dû s'y mettre avant. Il y a forcément un travail quand même en amont.
C'est surtout sur des ressorts psychologiques. C'est changer des joueurs. Que tu parlais tout à l'heure de caserie sur le banc. Ça doit évidemment le piquer au vif. La titularisation du petit Abi qui a 18 ans. Voilà. C'est là-dessus que tu joues. Tu joues sur des ressorts psychologiques. Le vrai travail de Puel maintenant. Il arrive sur les semaines. Essayer de construire du jeu, de donner une identité de jeu, parce que les joueurs sont pas mauvais individuellement. Saint-Etienne a un effectif qui est très correct. Mais alors, qu'est-ce que c'est pas bon avec le ballon, sincèrement, les milliards.
Comme en face, c'est pire.
Alors, du côté de Lyon, Cette nouvelle défaite est évidemment terrible, malgré eh bien cette victoire qui était quand même assez épatante du côté de Leipzig en Ligue des Champions, en tout cas très intéressante,
donc finalement
très importante, voilà, pour le club. On s'en doutait un peu parce que on savait que cette équipe de Leipzig elle est bien du côté de l'Allemagne, mais on connaissait un peu ses travers. Écoutons la colère d'Anthony Lopez juste à la sortie du match.
Il y a pas de mots. C'est plus que difficile. On peut rien dire à travers ça. On n'a pas fait le match qu'il fallait, c'est tout. Ah, on va nous juger sur la continuité, sur la régularité. Et là c'est trop en denti. Si on avait la solution, on l'aurait fait déjà bien avant. Là, je sais pas. Il va falloir se relever de ça.
Bruno, qu'est-ce qu'il dit sur le fond, Anthony Lopez, de tout ça? Parce qu'il dit, il va falloir.
Il dit qu'il en a ras-le-bol, quoi. Ouais. C'est pas possible de d'afficher aussi peu d'attitude, d'envie, d'abnégation dans cette équipe. C'est pas la première fois en plus.
Mais ça vient des joueurs ou ça vient d'un état d'esprit général?
Quand on l'écoute, et on l'a écouté après après le match contre Leipzig.
Déjà.
Il disait quand même qu'il y avait un gros soutien pour Silvinho des joueurs. Mm-hmm. Alors certes, peut-être qu'il y a certains choix qu'ils comprennent pas. Mais de ce que faisait Silvinho, ils avaient l'air de dire, ils y croyaient quand même. Ils ont envie de l'aider, etc. Et moi, il y a une attitude des joueurs qui, c'est un derby. Là, c'est pas question d'approche tactique, etc. C'est un derby. Je comprends pas l'attitude des Lyonnais qui ne rentrent pas dans ce match, mort de faim, et on les disait relancer avec ce match, cette victoire à Leipzig, et derrière, il se passe rien, ils retombent dans les mêmes. Mm-hmm. Et encore une fois, ils prennent un but en fin de match. Et ça veut dire beaucoup de choses. Quand ça arrive 4 fois de suite, c'est pas possible.
Jean-Michel Aulas s'est arrêté devant les micros en zone mixte, Olivier. Des fois, même un président de club peut le faire à la place des autres.
Spécialement quand ça va mal.
Il descend jamais pour rien.
Il vient allumer des contre-feux, il vient jouer le pompier.
Et justement, on va l'écouter parce que quand on se demande ce qui peut se passer dans cette fameuse trêve, dans ce moment où les clubs ont un peu le temps de se recentrer du côté de Silvinho, eh bien, écoutons Jean-Michel Aulas qui repasse la patate chaude, si on peut parler ainsi.
Ça nous est rarement arrivé d'être dans cette situation. Donc, Juni qui a toute la responsabilité du domaine sportif depuis le début du championnat va devoir réfléchir. Et puis, on va se voir avec lui et probablement un certain nombre d'autres personnes dans les jours qui viennent. On avait dit qu'on ferait un premier bilan. Mais enfin, c'est vrai que pour le moment, on n'est pas dans les clous de ce que l'on espérait.
Bah, le bilan, c'est un peu comme celui du côté de Manchester United. C'est 9 mois en 9 journées. Ouais. Donc, ça fait pas lourd.
C'est pas terrible,
ça fait, on est loin au classement.
C'est quand même un discours qui... Je serais Silvinho, je me renseignerais sur la disponibilité au billet d'avion et les gens qui viennent.
Saint-Etienne est repassé devant, d'ailleurs. Lyon, du coup, ils sont juste sur la marche devant. Mais Juni, c'est évidemment Juninho. Eric, est-ce qu'avec tous les signes qu'on a là, d'alerte, est-ce qu'on a l'impression qu'il va devoir partir, Silvinho? Ou est-ce qu'il a du crédit pour peut-être changer sa méthode?
Non. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de crédit à l'heure actuelle, mais ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est de savoir si Aulas joint Juninho à Silvinho, ou est-ce qu'il se dit bon bah je vais lui laisser le temps parce que c'est un enfant du club. Et que il faut qu'il prenne la bonne décision, c'est-à-dire genre tu vas prendre la décision de dégager.
C'est exactement ce que je comprends, je veux bien que tu restes, mais tu me dégages.
Moi, je pense que Colas est en train de tester Juninho pour savoir un peu ce qui. Mais en plus, Juninho, qui pendant très longtemps a pas pris la parole, a parlé la dernièrement sur OLTV.
Lui, il l'avait repassé à Aulas, vous vous souvenez?
Oui, mais il avait aussi dit. Et moi, pour le coup, ça m'avait interpellé. Il avait aussi dit qu'il s'était déjà embrouillé avec Silvinho depuis le début de la saison sur certains choix, qu'il n'était pas toujours d'accord avec son entraîneur. Donc là déjà, il marquait une rupture avec son entraîneur. Mm-hmm. Bon, évidemment, on ne comprend pas ce que fait Silvinho.
Tu peux aussi ne pas le dire
dans une période de crise. Tu peux aussi faire front commun.
C'est la première fois qu'il parlait, donc fallait bien qu'il dise
des choses. Tu peux aussi montrer un semblant d'unité à tout le monde, ce qui ne veut pas dire que tu es toujours d'accord avec lui quand les portes sont fermées. Mais à un moment donné, essaye quand même de pas trop le montrer en public. Donc moi, je pense que Silvinho, il a aucun crédit à Lyon. Qu'aujourd'hui, la situation, c'est de voir si on le vire, ce qu'on fait. Parce qu'au niveau des adjoints, si c'est virer Silvinho pour mettre Batik Lukaczapa, ça n'a pas de sens. Quel entraîneur sur le marché est susceptible de venir à Lyon?
Rémi Garde.
Et pourquoi pas Juninho?
Juninho entraîneur, est-ce qu'il a les diplômes d'entraîneur?
Je ne sais pas.
Donc, est-ce qu'il a envie d'entraîner?
Prête non, voilà. Puis je pense que lui, la situation, parce qu'il a aussi un regard de l'intérieur, je pense que lui, la situation, c'est pas non plus de trop s'exposer. Directeur sportif, il a un pare-balles.
c'est Silvinho. Si par une première fois qu'il en fait venir un autre et que ça marche pas, on va commencer à le regarder lui. Je suis pas sûr qu'il ait envie de se mettre en première ligne.
Deuxième de ce championnat de France, c'est pour Guillaume Cloquin qu'on donne cette nouvelle. C'est Nantes. Nantes, merci Christian Gourcuff. Et les voilà, deuxième sur la deuxième marche.
13 points de plus que la saison dernière au même moment. Nantes, c'est vraiment si le tube de, ça, de ce début d'automne.
Hein, ah ouais, au moment de l'arrivée de Gourcuff.
C'est incroyable. Ouais.
Hein, comme quoi, extraordinaire. Comme quoi, un entraîneur quand même peut insuffler quelque chose dans une équipe. Allez, on termine cette émission en parlant quand même du leader du championnat de France, à savoir le Paris Saint-Germain. En plus, tout le monde marque au Paris Saint-Germain.
Sarabia dans la surface.
Oh, joli.
Et Sarabia pour le garçon du score. Oh. Sarabia pour Gueye qui a manqué. Icardi lui ne manque pas. Ça fait 2-0. Idrissa Gueye. Pour le 3-0 du Paris Saint-Germain, c'est allé trop vite encore. Neymar face à Butel, il y a de la place pour Ami la preuve. 4-0 pour le PSG.
Et les Parisiens renouent donc avec la victoire sur leur pelouse du Parc des Princes, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que j'entends là?
Ah, bah vous entendez que nous y étions,
oui,
n'est-ce pas?
C'est hein, la réalité,
ils avaient perdu leur dernier match sur cette pelouse, en tout cas, ils avaient perdu face
contre
au Stade de Reims. Dignement fêté par Olivier dans les couloirs de RFI. Bon. Là, c'était 4-0 contre Angers, donc surprenant Dauphin, ils retombent en troisième position, eux, mais surtout, il l'avait dit Stéphane Moulin avant le match, ils étaient méfiants. Ils avaient peur que les Parisiens se mettent en colère. Eh bien là, il est reparti, l'entraîneur angevin, impressionné par la stabilité de l'équipe.
Je connais le niveau de cette équipe et ce soir, ils ont fait un match très sérieux. Les Parisiens, ils ont été extrêmement rigoureux, extrêmement. Ils ont joué certainement à un très très bon niveau. Et quand ils jouent comme ça, malgré toute la volonté qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut mettre en place, ben vous pouvez pas rivaliser sur une heure et demie.
Alors, tenir le choc et effectivement être performant sur tout le temps, on a déjà beaucoup parlé de l'effectif, de ses arrivées, de cet équilibre en milieu de terrain, Eric Srabesandratana. Est-ce que vous êtes plus séduit au fil des matchs par le Paris Saint-Germain? Séduit, voire rassuré?
Pas encore complètement,
Icardi
mais
qui marque,
c'est intéressant.
Ce qui s'intègre peut-être plus vite que d'autres.
Bah, Sarabia, qui a été la bonne surprise de ce week-end contre Angers, où il est important sur trois.
Dès le match du Trophée des Champions, on avait vu qu'il était assez.
Non, mais je pense que c'est une bonne pioche, Sarabia. Mm-hmm. Faut lui laisser le temps de vraiment s'intégrer, mais je pense que c'est une bonne pioche. Herrera est une bonne pioche aussi parce qu'il a joué latéral droit et finalement il a donné satisfaction alors qu'on est dans un poste où on a du mal à trouver quelqu'un qui donne satisfaction, même si Meunier est mieux dernièrement.
Oui.
Voilà, on sent que on a donc c'est une solution qui s'installe. Je m'attendais à voir Marquinhos. Pour moi, c'était le seul qui pouvait jouer en latéral droit dans cet effectif.
Mm-hmm.
Et finalement, Herrera a donné satisfaction. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a Gueye qui continue sa lancée, qui a marqué en plus.
Mm-hmm.
Donc c'est mieux, mais l'état d'esprit est mieux. C'est-à-dire qu'on a vu, moi j'ai bien aimé le match à Bordeaux, où j'ai senti l'équipe impliquée, où même s'ils n'ont pas réussi tout, même s'ils ont été, ils ont vendangé des actions. Dans l'esprit, c'était bien. Donc, c'est pourvu que ça dure comme ça, parce que c'est plutôt pas mal.
Bruno,
les deux victoires en Ligue des Champions leur ont fait beaucoup de bien quand même. Et peut-être, alors il y a celle du Real évidemment qui est plus impressionnante parce que c'était
3-0. Mais ils avaient perdu après contre.
Mais celle contre Galatasaray qui était un peu plus dans la douleur, moi j'ai trouvé plus intéressante, encore plus importante. Et ils ont vraiment trouvé un socle là avec ce milieu de terrain et un équilibre et les joueurs qui rentrent par petites touches, ils font le boulot. Et effectivement, un joueur comme Herrera, c'est un joueur de devoir, donc vous pouvez le mettre n'importe où en match en série. Vous le mettez gardien du stade, il fera un super boulot.
C'est vrai.
Parce que c'est un mec qui est hyper impliqué.
Et Marquinhos, quand est-ce qu'il joue gardien? Enfin, je sais pas. D'accord, parce que Marquinhos, il est parti pour faire tous les postes.
Après, c'est juste un retour à la normale d'un PSG qui est tellement fort face à des adversaires, même si t'es son dauphin.
Ouais, mais
on sait bien qu'il y avait une illusion. On sait bien qu'il y avait une illusion avec Angers, c'était déjà extraordinaire ce qu'il faisait, mais voilà.
Oui, puis il y a peut-être un état d'esprit qui vient avec certains nouveaux. Moi, je me souviens de la conférence de presse d'avant Galatasaray avec Thiago Silva, voileur. Thiago Silva qui disait, mais faut qu'on arrête là tous de se dire qu'en Ligue 1, il suffit d'arriver sur le terrain et que ça va marquer et gagner. Il faut aussi qu'on soit concentré.
Eric, oui, non. Neymar reste réconcilié avec les supporters?
Sur la bonne voie, oui, c'est sûr.
Sur la bonne voie. Bah oui, Marc. C'est la fin de ce Radio Foot International. C'était trop court encore aujourd'hui. Merci à Laurent Salerno et à Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. À demain.
Qu'est-ce que tu regardes?